Sixième jour, prime, où Nicolas raconte maintes choses, tandis que nous visitons la crypte du trésor.
Nicolas de Morimont, dans sa nouvelle qualité de cellérier, était en train de donner ses dispositions aux cuisiniers, et ceux-ci lui donnaient des informations sur les usages des cuisines. Guillaume voulait lui parler, et il nous demanda d'attendre quelques minutes. Ensuite, dit-il, il devrait descendre dans la crypte du trésor pour veiller au travail de nettoyage des châsses, qui lui revenait encore, et là, il aurait davantage le temps de converser. Peu après, en effet, il nous invita à le suivre, entra dans l'église, passa derrière le maître-autel alors que les moines disposaient un catafalque dans la nef pour veiller la dépouille mortelle de Malachie, et nous fit descendre un escalier étroit au pied duquel nous nous trouvâmes dans une salle aux voûtes très basses, soutenue par de gros piliers en pierre de taille. Nous étions dans la crypte où l'on gardait les richesses de l'abbaye, lieu dont l'abbé se montrait fort jaloux et qu'il n'ouvrait qu'en des circonstances exceptionnelles et pour des hôtes de marque. Nous étions entourés de reliquaires et de châsses de grandeur variée, à l'intérieur desquelles la lumière des torches, tenue par deux aides de confiance de Nicolas, faisait resplendir des objets d'une merveilleuse beauté. Des parements tissés de fils d'or, des couronnes d'or constellées de gemmes, des coffrets de différents métaux historiés avec des figures, des nielles, des ivoires. Nicolas nous détailla extasié un évangéliaire dont la reliure sautait aux yeux avec ses admirables plaques d'émail qui composaient une unité bariolée de compartiments ordonnés, cloisonnés par des filigranes d'or et fixés en guise de clous par des pierres précieuses. Il nous montra un délicat édicule avec deux colonnes de lapis-lazuli et d'or qui encadraient une descente au sépulcre représentée en fin bas-relief d'argent, surmontée par une croix d'or criblée de 13 diamants sur un fond d'onyx bigarré, tandis qu'un petit fronton était cintré d'agate et de rubis. Puis je vis un diptyque chryséléphantin divisé en cinq parties, avec cinq scènes de la vie de Christ, et au centre, un agneau mystique composé d'alvéoles d'argent doré et de pattes de verre, unique image polychrome sur un fond de cireuse blancheur. Le visage, les gestes de Nicolas, alors qu'il nous indiquait ces objets, étaient illuminés d'orgueil. Guillaume loua les choses qu'il avait vues, puis il demanda à Nicolas quel genre d'homme pouvait bien être Malachie. « Curieuse question, » dit Nicolas. « Tu le connaissais, toi aussi ?»«
Oui, mais pas suffisamment. Je n'ai jamais compris quelle pensée il cachait. »
Et il hésita à se prononcer sur quelqu'un qui venait de disparaître.
« Et s'il en avait ?»
Nicolas s'humidifia un doigt, le passa sur une surface de cristal pas tout à fait impeccable et répondit avec un demi-sourire sans regarder Guillaume au visage. « Tu vois, tu n'as pas besoin de poser de questions. » C'est vrai, au dire de beaucoup, Malachie avait l'air fort pensif, mais c'était en revanche un homme très simple. Selon Alinardo, c'était un idiot.
« Alinardo garde rancœur contre quelqu'un pour un fait lointain quand lui fut refusée la dignité de bibliothécaire. »
J'en ai entendu parler, moi aussi, mais il s'agit d'une vieille histoire. Elle remonte au moins à 50 ans. Quand moi j'arrivais ici, le bibliothécaire était Robert de Bobbio, et les vieux allaient murmurant d'une injustice commise aux dépens d'Alinardo. À l'époque, je ne voulus pas approfondir, parce que ce me semblait une marque de respect envers les plus âgés et que je ne voulais pas me prêter à des médisances. Robert avait un aide, qui mourut, et à sa place fut nommé Malachie, encore très jeune. Beaucoup dirent qu'il n'avait aucun mérite, qu'il soutenait savoir le grec et l'arabe, et ce n'était pas vrai, qu'il était seulement un singe doué qui copiait en belle calligraphie les manuscrits de ces langues-là, mais sans comprendre ce qu'il copiait. On disait qu'un bibliothécaire se doit d'être bien plus docte que cela. Alinardo, qui alors était encore un homme plein de force, émit des jugements très amers sur cette nomination. Et il insinua que Malachie avait été installé à cette place pour faire le jeu de son ennemi, mais je ne compris pas de qui il parlait. Voilà tout. On a toujours murmuré que Malachie défendait la bibliothèque comme un chien de garde, mais sans bien comprendre ce qu'elle renfermait. D'autre part, des bruits circulent aussi contre Béranger, lorsque Malachie le choisit comme aide. On disait que lui-même n'était pas plus apte que son maître, que c'était un intrigant. On racontait également, mais d'ailleurs de ton côté tu as dû entendre ces on-dit, qu'il y avait un étrange rapport entre Malachie et lui. Vieille lune. Et puis tu sais, des rumeurs ont circulé sur Béranger et Adelme.
et les jeunes copistes disaient que Malaki souffrait en silence d'une atroce jalousie. Et encore, on murmurait sur les rapports entre Malaki et Jorgé, non pas dans le sens que tu peux croire, personne n'a jamais médit de la vertu de Jorgé. Mais Malaki, comme bibliothécaire, par tradition, avait dû élire l'abbé pour confesseur, tandis que tous les autres se confessaient à Jorgé, ou à Linardo, mais le vieillard était maintenant à peu près dément. Eh bien, on disait que malgré cela, Malaki s'entretenait trop souvent avec Jorgé. Comme si l'abbé dirigeait son âme, tandis que Jorgé réglait son corps, ses gestes, son travail. D'autre part, tu le sais, tu l'as vu, probablement. Si quelqu'un voulait un renseignement sur un livre ancien et oublié, il ne le demandait pas à Malaki, mais à Jorgé. Malaki veillait sur le catalogue et montait à la bibliothèque, mais Jorgé savait ce que signifiait chaque titre. Pourquoi Jorgé savait-il tant de choses sur la bibliothèque? C'était le plus ancien, après Alinardo. Il est ici depuis sa jeunesse. Jorgé doit avoir plus de 80 ans. On dit qu'il est aveugle depuis au moins 40 ans et peut-être davantage. Comment a-t-il fait pour devenir aussi savant avant d'être frappé de cécité? Oh, il y a des légendes sur lui. Il paraît qu'enfant, déjà, il était touché par la grâce divine, et là-bas, en Castille, encore un pubère, il lisait les livres des Arabes et des docteurs grecs. Et puis même, après être devenu aveugle, même à présent, il reste assis de longues heures dans la bibliothèque. On lui récite le catalogue, on lui apporte des livres, et un novice lui fait la lecture à haute voix pendant des heures et des heures. Il se souvient de tout. Il n'est pas sans mémoire comme Alinardo, mais pourquoi m'interroger sur ces choses-là?
Maintenant que Malaki et Béranger sont morts, qui possède encore les secrets de la bibliothèque?
L'abbé? Et l'abbé devra maintenant les transmettre à Bensé, s'il le veut bien.
Pourquoi, s'il le veut bien?
Parce que Bensé est jeune. Il a été nommé aide quand Malaki était encore en vie, et ce n'est pas pareil d'être aide bibliothécaire et bibliothécaire. Par tradition, le bibliothécaire devient ensuite abbé.
Ah, c'est ainsi. Et pourquoi la place de bibliothécaire est si convoitée? Mais alors, Abon a été bibliothécaire?
Non, Abon, non. Sa nomination a eu lieu avant que je n'arrive ici. Il doit bien y avoir 30 ans maintenant. Avant, c'est Paul de Rimini qui était abbé. Un homme curieux sur lequel on raconte d'étranges histoires. Il paraît que c'était un grand dévoreur de livres, il connaissait de mémoire tous les ouvrages de la bibliothèque, mais il avait une bizarre infirmité, il ne parvenait pas à écrire. On l'appelait Abbas Agraficus. Il devint abbé très jeune. On disait qu'il avait l'appui d'Algirdas de Cluny, le docteur Quadratus. Mais ce sont là vieux bavardages de moines. Bref, Paul devint abbé, Robert de Bobbio prit sa place dans la bibliothèque, mais il était miné par un mal qui le consumait. On savait qu'il ne pourrait présider aux destinées de l'abbaye, et quand Paul de Rimini disparut,
il mourut.
Non, il disparut. Je ne sais comme. Un jour, il partit pour un voyage et il ne revint plus. Peut-être fut-il tué par des voleurs de grand chemin au cours de son voyage. Bref, quand Paul disparut, Robert ne pouvait prendre sa place et il y eut des trames obscures. Abon, dit-on, était fils naturel du seigneur de cette contrée. Il avait grandi dans l'abbaye de Fossanova. On racontait que garçonnet, il avait assisté saint Thomas lorsqu'il mourut là-bas et avait veillé au transport de ce grand corps, descendu par les escaliers d'une tour, dont l'étroitesse ne permettait pas au cadavre de passer. C'était là toute sa gloire, murmuraient ici les mauvaises langues. Le fait est qu'il fut élu abbé, même sans avoir été bibliothécaire, et il fut instruit par quelqu'un, Robert, je crois, des mystères de la bibliothèque.
Et Robert, pourquoi fut-il élu?
Je l'ignore. J'ai toujours essayé de ne point mettre mon nez dans ces choses. Nos abbayes sont des lieux saints, mais autour de la dignité abbatiale sont parfois tissées d'horribles trames. Pour ma part, je m'intéressais à mes vers et à mes reliquaires. Je ne voulais pas être mêlé à ces histoires. Mais à présent, tu comprends pourquoi je ne sais si l'abbé veut instruire Bensé. Ce serait comme désigner en lui son successeur. Un garçon irréfléchi. Un grammairien presque barbare de l'extrême nord. Qu'en saurait-il de ce pays, de l'abbaye et de ses rapports avec les seigneurs du lieu?
Mais Malaki non plus n'était pas italien, ni Béranger. Ils ont pourtant été mis à la tête de la bibliothèque.
Voilà un fait obscur. Les moines murmurent que depuis un demi-siècle, l'abbaye a abandonné ses traditions. Raison pourquoi, il y a plus de 50 ans, et bien avant peut-être,
Alinardo aspirait à la dignité de bibliothécaire. Le bibliothécaire avait toujours été italien, les grands esprits ne manquent pas dans cette terre. Et puis tu vois, et là Nicolas marqua une hésitation, comme s'il ne voulait pas dire ce qu'il était sur le point de dire, tu vois, Malaquis et Béranger sont morts, peut-être pour qu'ils ne deviennent pas abbés.